c'est la réunion du comité consultatif de la sécurité et de la stabilité avec le conseil d'administration. Ramon à nos micros. Nous allons commencer d'ici très peu de temps.
All right, good morning.
Bonjour, Ramon à nos micros. Donc encore une fois, c'est la session, la séance du conseil d'administration avec le SAC. Il serait bon pour tous, surtout pour les membres du conseil d'administration de l'ICANN, de nous connaître. Donc nous allons faire l'appel. S'il vous plaît, présentez-vous. On va commencer avec vous, Patrick. Patrick Falstrom, MacNaud, membre de SAC. André Phillips, ESSAC. John Lavigne, Mort Liaison, ESSAC. Ross Mandy, ESSAC, et aussi Liaison ESSAC au ARSAC. Jim Gavin, Affiliés. Jacques Latour, CIRA. Christian Asselman, ESSAC. Tara William, Google et ESSAC. Greg Aaron, ESSAC. Sarah Deutsch, conseil d'administration de l'ICANN. Johan, liaison au board. Sean Chalabi, conseil d'administration ICANN, Ramon. Rod Rasmussen, président du ERSAC. Julie Hannon, vice-présidente ESSAC. Martin Butteman, conseil d'administration ICANN. Louise Vies van der Lam, conseil d'administration ESSAC, Jeff Betzer, ESSAC, Robert Guerra, ESSAC, Ken Butler, ESSAC, GoDaddy, Medita Keo, ESSAC, André Kelsnikov, ESSAC, et liaison ALAC à l'ESSAC, Jay Daly, partie contractante indépendante, ESSAC. Marvin, Lyman Shapin, ESSAC. Nouvel intervenant, excusez-moi, je vais devoir partir plus tôt. Rhonda Silva, conseil d'administration ICANN. George, pouvez-vous vous présenter? George Shedarsky. Ramon, Matthew, vous voulez parler? Pardon. Matthew Shears, nous avons Jeff Houston, ESSAC, membre ESSAC, et Devin Conrad. Ramon, le format de cette séance sera celui-ci. Je vais servir de modérateur, mais en attendant, nous allons avoir un dialogue avec le conseil d'administration. Nous allons passer aux diapositives. Voilà les questions qui nous sont venus du conseil d'administration de l'ICANN. Question pour le ESSAC. Je vais vous les passer, Rod, pour que vous puissiez nous répondre et ensuite commencer le dialogue. Rod Rasmussen au micro. Oui, donc un des objectifs pour 2018, donc pour le ESSAC, puisque le conseil d'administration nous a posé la question, nous avons un projet d'analyse sur les collisions de noms que nous appelons NCAP parce que nous aimons les acronymes. Donc, nous allons bien sûr en parler en détail. Nous allons donc aussi publier des documents sur le WIS. Je pense que cela va avoir lieu au troisième trimestre. Cela dépend bien sûr des délais de travail du groupe de travail. Et nous allons aussi publier un document sur les questions sur l'Internet des objets. Encore une fois, je pense que ça aura lieu au troisième trimestre. avec ou sans délai. Cela dépend bien sûr des informations et des recherches qui nous seront disponibles. Voilà donc les trois domaines dans lesquels nous allons travailler et sur lesquels nous travaillons en ce moment. Cela dépendra bien sûr des demandes, des requêtes des membres. Nous allons discuter de la question du Conseil regardant ce sujet. Au micro, je vois qu'il y a d'autres membres du Conseil qui sont arrivés. Il y a Lito et Leon Sanchez qui viennent d'arriver. Il y a aussi Cave et Johan Marby. Et aussi Colin. Il y avait des questions. Est-ce qu'il y a des réponses du Conseil? Rod Rasmussen au micro. Voilà. Donc, ce sont nos projets clés, nos objectifs clés. Avant de commencer à discuter du projet NCAP, nous voulons savoir s'il y a des questions sur nos initiatives en cours. Ainsi, nous pouvons discuter de cela en premier. Ramohan au migré. Sujet important, l'Internet des objets, l'analyse de noms de collision et les limites de requête au WIS. Rod Rasmussen au micro. Non, Johnny au micro, pardon. Juste, tous ces termes sont des termes très important. Que pensez-vous qui va être la chose la plus importante pour l'ESC? Nouvel intervenant. Comme vous voyez, c'est une thématique très importante. Christian, au micro. Nous essayons de voir exactement sur quoi nous allons nous concentrer dans ce domaine. Nous savons que l'Internet des objets aura un impact sur les utilisateurs, le DNS et l'Internet en général, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui ne sont pas sécurisés sur le marché. Donc, il pourrait y avoir un impact important sur les utilisateurs finaux. Nous avons vu aussi que tous ces instruments, ces dispositifs peuvent donc causer des problèmes importants. Donc, nous essayons de faire un inventaire des domaines dans lesquels nous allons travailler. Nous avons identifié plusieurs de ces points. Nous allons peut-être parler des protocoles de sources ouvertes. Disons que nous pourrions mettre en place un laboratoire de tests pour continuer à faire des recherches et enquêter pour voir s'il y a des vulnérabilités dans les logiciels et peut-être faire des recommandations et ensuite améliorer la qualité des processus. Nous allons voir quelles sont les sources ouvertes qui sont les plus utilisées et qui sont utilisées donc par les dispositifs technique. Nous allons voir comment les instruments et les dispositifs utilisent le DNS. Aussi, il y a le sujet du roulement KSK. Nous avons essayé de voir combien de dispositifs ont des résolveurs de validité. Ça pourrait être un problème. Comme vous le savez, les dispositifs ne sont pas toujours mis à jour. Donc là, il pourrait y avoir un problème. Il y a aussi le DDoS pour les services qui aussi utilisent des dispositifs IT. Donc, il y aura peut-être des sites dans certains TLD qui pourraient être utilisés pour donc héberger ce genre d'attaque. Voilà les sujets que nous avons sur notre radar. Mais nous devons encore décider de ce que nous allons pouvoir choisir. Rod Rasmussen au micro. Ramon, pardon. Est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions? Johnny au micro. Quand vous parlez des dispositifs IoT, vous savez, il y a beaucoup de dispositifs, il y a des capteurs qui sont connectés avec l'Internet, pas forcément à travers les IP, ou même dans les voitures, il y a des dispositifs de ce genre. Ces dispositifs utilisent des logiciels et des protocoles variés. Et lorsque on observe ces genres de logiciels. Quand il s'agit de sources ouvertes, nous savons qu'il y a énormément de logiciels qui peuvent être utilisés pour ces dispositifs. Est-ce que vous savez comment vous allez, sur quoi vous allez vous focaliser? Est-ce que vous avez des échantillons de ces dispositifs? Avez-vous une idée de votre approche? Nouvel intervenant. Alors, nous allons peut-être nous concentrer sur les réseaux à la maison, les réseaux au domicile, parce que souvent ces dispositifs se trouvent à la maison. Nous n'allons pas forcément nous focaliser sur les dispositifs que l'on trouve dans les voitures ou dans les usines, disons. Pour votre autre question, nous ne savons pas encore comment nous allons procéder. Martine au micro. J'ai aussi quelque chose sur l'IoT. Il faut considérer ce que le DNS va faire pour rendre l'environnement du IoT plus sécurisé. Comment est-ce que l'IoT va avoir un impact sur le DNS et bien sûr dans l'autre sens aussi. Nouvelle intervenance. Si vous observez les différents modèles d'IoT, vous verrez qu'il y a des services back-end qui sont associés avec chaque dispositif. Il y a des associations entre les deux. Nous voulons sécuriser cette démarche. Ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser le DNSSEC dans ce cas pour utiliser le service, parce qu'il est beaucoup plus difficile de pirater l'association entre les dispositifs et les services back-end. Vous ne pouvez pas être rerouté si facilement. Donc, ça pourrait peut-être être une solution potentielle. Nouvel intervenant. Becky Bohr est ici et vient de nous rejoindre pour cette réunion. Becky, levez la main, que tout le monde sache qui vous êtes. Rod, passons maintenant à la deuxième question. Nous allons donc terminer sur ces questions. Ensuite, nous parlerons du NCAP. Quels sont vos objectifs à long terme les plus pertinents? Rod Rasmussen, au micro. Il y a deux choses dont nous voulons parler avec le conseil d'administration de la CAN. Ce sont des objectifs à long terme. Nous pensons à la nature de l'ESSAC et de la relation avec la communauté et le conseil d'administration dans ce nouveau monde de après-transition de l'ICANN. Et par rapport aux requêtes que nous avons reçues de NCAP et d'autres requêtes d'ailleurs qui vont nous parvenir, nous pensons au rôle du KSK et aussi aux révisions du DAR qui vont peut-être venir aussi. Nous avons eu quelques requêtes ou demandes pour des problèmes de technologie spécifiques sur les IDN. Nous avons aussi reçu beaucoup plus de demandes que par l'habitude. Nous avons aussi entendu parler des SO et des AC. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir hier durant notre séance et nous ont posé des questions sur l'enregistrement des RDS et beaucoup de questions sur le WIS. Ils nous ont parlé des modèles d'accréditation pour l'authentification. Nous leur avons dit que nous étions très intéressés sur ces discussion. Donc, il nous arrive beaucoup de questions, mais pour nous, il est difficile en tant qu'association d'organisation de bénévoles, car nous avons peu de personnel qui fait du bon travail d'ailleurs, mais donc nous devons limiter le montant de travail que nous pouvons faire. Nous allons parler du projet NCAP, par exemple. Et ça, c'est un projet énorme. C'est un projet qui a beaucoup de couches de travail. Nous essayons de voir comment nous allons procéder. Donc, il nous arrive des tonnes de questions. Donc, nous voulons dialoguer, à savoir où le conseil, la communauté, une organisation va pouvoir continuer à communiquer ou à collaborer. Il y a beaucoup de choses qui nous sont envoyées et dans le passé, on nous posait des questions encore une fois et on délibérait avant de travailler sur ces choses. Et dans nos propres délais, nous publions un document ou des commentaires. Maintenant, nous devons avoir une réponse de suite sur une question. On nous donne des délais. Donc, nous n'avions pas l'habitude de travailler comme cela. Nous voulons donc pouvoir dialoguer pour savoir comment nous pouvons accommoder les besoins de la communauté et de savoir exactement comment on pourrait fournir les informations et ensuite donc pouvoir aider tout le monde. C'est beaucoup de travail. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail, donc je ne veux pas que tous nos volontaires, tous nos bénévoles se désistent, si vous voulez. Donc voilà le plus gros problème que nous avons et je voudrais qu'on en parle. Nouvel intervenant, que pensent les membres du conseil d'administration? Charine? Charine Chalabi au micro. Merci, Rod. Je pense que c'est une question fondamentale. C'est la base des choses dont on a parlé. Il s'agit des ressources. Je vous comprends, je vous entends. Vous avez dit, dans le passé, nous avions moins de projets, moins de thématiques et nous travaillions dans nos propres délais. Et nous en arrivions à un avis. Maintenant, vous avez beaucoup de projets et il y a des demandes plus précises sur des sujets plus précis. Et vous êtes bien sûr une organisation de bénévoles et vous n'avez pas assez d'effectifs pour tout faire. Nouvel intervenant. Oui, pour tout faire, bien sûr, et pour faire encore plus. Jean Chalabi au micro. Oui, c'est vraiment une histoire de priorité. On a déjà dit. Vous n'êtes pas l'unique partie prenante qui se plaint de cela. Tout le monde dit, nous avons beaucoup de travail et il y a un problème de ressources limitées. Il nous manque donc un mécanisme central pour résoudre ce problème de priorité. On l'a déjà dit, c'est un problème de demande et d'offres et de demandes. Les services ou les fournitures, les ressources sont fournies par Johan et son équipe. Donc, pour en revenir à ESSAC, votre mission, bien sûr, est la sécurité et la stabilité. Je pense que vous devez mettre cela en priorité. Tout ce qui vous est demandé, qui n'a rien pas à voir avec la sécurité et la stabilité, ne devrait pas être une priorité. Je ne pense pas que nous ayons une réponse pour vous, mais je suis heureux que vous ayez commencé le dialogue. Nous devons trouver une solution à ce problème. Ramon, à micro, j'ai David Conrad et Caleg et Jay qui veulent prendre la parole. Jay au micro. Non, David Conrad au micro, excusez-moi. Je pense qu'il doit y avoir du travail entre ESSAC et OCTO dans cet estave. Le OCTO, c'est le personnel et nous avons des problèmes de temps. Il y a des tâches qui sont dirigées vers l'ESSAC. Il y a des travaux qui sont faits au sein de l'ESSAC par des indépendants. Bien sûr, tout cela dépend des demandes ou des requêtes qui viennent vers nous. On doit essayer de comprendre exactement où adresser et comment adresser ces requêtes. Ramon, au micro. Merci, David. Charine Chalabi, au micro. Excusez-moi, je ne vais pas prendre la parole tout le temps, mais vous savez, David, c'est une très bonne suggestion que vous venez de faire. Qu'est-ce qui nous empêche de faire cela? J'apprécie le point que vous avez fait sur l'indépendance, mais en même temps, vous savez qu'il y a des choses qui s'appliquent à Okto et qui pourraient prendre, qui pourraient aider ERSAC. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous empêche de faire cela, David Conrad, le micro? Je pense que c'est juste historique, si vous voulez. OCTAC est nouveau, ERSAC est là depuis longtemps, donc pas traditionnellement. Les gens envoient les histoires de sécurité et stabilité vers l'ERSAC. On a toujours besoin de plus de ressources, donc je suis un petit peu nerveuse. Je ne veux pas donner trop d'informations maintenant. La combinaison d'Okto et ERSAC pourrait peut-être se préoccuper de la régler ou travailler sur cette charge de travail. Ram, au micro, oui, vous voulez répondre? Rod, oui, je pense que la coordination serait une bonne idée. Il faudrait qu'on ait une discussion ultérieure sur ce sujet quand il s'agit de ESSAC et Okto. Ramon, oui, au niveau du conseil d'administration, on pourrait peut-être mettre ça dans les sujets qui doivent être discutés et qu'on puisse ainsi faire du suivi. Khaled, vous voulez prendre la parole? Khaled, j'ai une question. Je suis venue à votre séance d'hier. Je me souviens, vous avez parlé de 37 membres au sein du ESSAC. C'est très bien. Quand on voit le nombre d'experts qui sont dans votre groupe, c'est intéressant. Il est très important d'avoir des gens de base qui travaillent sur ces questions de stabilité et de sécurité. Mais quand je vous entends parler aujourd'hui du besoin que vous avez de bénévoles et de ressources, pouvez-vous nous dire si vous allez faire plus de sensibilisation pour avoir d'autres, pour obtenir d'autres membres, avoir plus de volontaires? Je me suis rendu compte hier que la salle était pleine de personnes qui posaient des questions. J'ai vu beaucoup de New Gen, de boursiers, qui sont venus vous écouter parler de problèmes de sécurité. Donc peut-être ces genres de ressources que vous pourriez utiliser. Julie Han au micro. C'est une question dont nous avons discuté dans nos conversations. Mais il y a deux côtés de l'équation, si vous voulez. Le ESSAC est une communauté d'experts qui sont identifiés, qui se font vraiment confiance. Et ainsi, c'est comme ça que l'on peut vraiment faire du progrès, puisqu'ils se font confiance, ils veulent bien partager des informations entre eux qu'ils ne partageraient peut-être pas avec un groupe plus important. Un des l'équilibre qu'on doit trouver, c'est qu'on doit avoir assez de personnes pour faire le travail qu'on veut faire, mais en même temps maintenir la relation entre les groupes et le niveau de confiance pour qu'on puisse faire le travail et donc en arriver aux informations dont on a besoin pour faire le travail. Donc c'est un acte d'équilibre. Si le groupe devient trop grand, cela empêchera nos façons de travailler. Donc, je pense que c'est une question sur laquelle on doit avoir un plus long débat et on doit en parler plus pour essayer de voir ce qu'on peut faire pour mieux travailler. Mais étendre le nombre de personnes, rajouter des membres au groupe ne sera peut-être pas forcément la bonne réponse. Nouvel intervenant, Jay Daly au micro. Oui, la conversation a été intéressante jusqu'à présent et tous ces sujets sont des sujets qui reviennent souvent au ESSAC. Notre travail le plus important en ce moment est le travail que nous faisons sur le NCAP. C'est un travail qui a été, une requête qui a été faite par le conseil d'administration et la communauté de l'ICANN. C'est un travail qui nous a demandé de rassembler beaucoup d'informations. Je sais que nous allons en parler. Nous devons considérer ce projet aussi quand on parle d'amener plus de travail dans le pipeline. Nous avons parlé de l'Okto aussi et je sais que cela c'est une question importante aussi. Ramon, Nous allons passer à... Merci, Jay. Sarah, qui veut parler aussi. Ensuite, on va revenir à Greg. Sarah, au micro. J'ai vu qu'on a parlé de DAR dans la discussion tout à l'heure. Il faut aussi... Est-ce qu'il y a des discussions au sein du SAC à propos du RGPD? Ram, elle a dit le mot. Nous avons... Excusez-moi. La question autour du WIS et du RDS, etc., a été discutée avec ce groupe et nous avons offert plusieurs recommandations et cela fait 10 ans que nous le faisons. SAC 55 était un document qui avait traité du sujet. Nous en avons beaucoup parlé. Nous avons fait des commentaires sur le AWG. Nous avons aussi discuté des différents modèles. Donc, tous ces sujets ont été abordés et ils sont liés au sujet actuel. Nous sommes engagés de façon différente avec tous. Nous avons travaillé avec les parties contractantes, nous avons parlé de l'accès aux données. Et donc, il y a beaucoup de ces conversations qui sont en cours. Nous avons identifié 3 domaines dans lesquels SAC pourrait faire du travail, que ce travail pourrait être applicable. Mais ce n'est pas du travail qui va être accompli à court terme. Nous n'avons pas de date butoir. Nous avons l'accès des forces de l'ordre. Nous avons l'accès à différents niveaux de la part d'experts en sécurité. Nous voulons essayer de voir comment nous allons continuer à procéder et tout de même protéger la structure. Et d'une perspective technique, nous pensons au modèle de sécuriser, d'accès sécurisé. Et ce serait dans notre mission SSR. Nous ne travaillons pas sur les politiques juridiques, etc. Cela n'appartient pas à notre cadre de travail.
Greg.
Merci, Sarah. Greg. Greg Aaron au micro. Cette question est un exemple de ce dont on a déjà parlé. Il y a des sujets que le SSAC doit suivre et comprendre parce que cela comporte des risques pour la sécurité et la stabilité. Cela veut dire que des groupes, des gens dans mon groupe, comme moi-même, doivent voir ce qui se passe et donner des informations au SSAC. Ma question est la suivante. Chaque projet dans les SO et les AC a une espèce de responsable. Et la question au conseil d'administration est la suivante. Comment les groupes dans la communauté choisissent leurs projets et comment font-ils pour les mettre en place de manière plutôt efficace? Nous avons qu'il y a des processus au sein de la GNSO qui traînent depuis 2 ans et qu'il n'y a pas beaucoup de progrès. Est-il donc juste pour les bénévoles? Alors, je pense qu'il faut revoir les choses pour remettre les choses dans leur droit chemin. Nous essayons tous de faire, de mieux faire ou de bien faire. Très bien, dit Ram Mohan. Essayons donc de donner la parole à Rod Rasmussen pour qu'il nous donne des informations sur le point suivant. Rod Rasmussen, au micro. Je voulais vous parler d'un domaine sur lesquels nous devons commencer à réfléchir, puisqu'on reçoit des questions du conseil d'administration, d'autres SO et AC. Nous devons donc voir une partie du travail de l'OCTO, comme c'est par exemple le roulement de la KSK. Nous pensons donc que l'ICANN a fait un bon travail là-dessus. On le sait tous par rapport à la manière dont ce processus a été géré. Donc, mais il y a des problèmes peut-être qui se posent et qui font en sorte qu'on doive peut-être s'adresser au SAC pour voir comment on peut trouver un expert, par exemple, qui vienne d'un auditeur indépendant, par exemple. ou un consultant indépendant et qui puisse donc vous aider à trouver une réponse à des problèmes spécifiques. Donc, en fonction de la nature de la question, cela pourrait être plus approprié. Nous pensons donc à diviser le travail entre nous et Octo, mais aussi peut-être avec d'autres consultants externes en fonction de la nature du problème auquel nous sommes confrontés. Nous devrions donc avoir cette discussion. Ensuite, l'autre question que je voulais aborder concerne l'organisation de l'ICANN elle-même, de la communauté habilitée, etc. Les nouveaux présidents des SO et des AC ont abordé certains domaines intéressants, y compris donc dans le cadre des révisions. Et nous voyons qu'il n'y a pas un mécanisme pour traiter des questions qui représentent des difficultés. Par exemple, la responsabilité, comment la responsabilité est mise en place. Nous aurons des discussions par rapport à cela, mais il est clair que nous devons faire quelque chose par rapport à ce type de questions. L'une des AC, nous avons parlé entre les différents présidents des comités consultatifs, nous avons parler de cette question pour essayer de trouver un moyen de mettre en place ce type de démarche face à ces problèmes. Est-ce que le conseil d'administration a des idées par rapport à cela? Le SAC voulait donc soulever cette question pour être sûr que cela soit sur votre liste de questions à traiter. Chérine Chalabi au micro. Oui, je pense que nous sommes d'accord avec vous. Il y a un processus qui manque. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui manquent aussi. Les statuts ont passé de 50 pages à 250 pages. Du jour au lendemain, presque. Ils sont vraiment très détaillés. Mais je crois que maintenant, alors qu'on met en place certaines choses nouvelles, nous nous rendons compte qu'il nous manque des processus et qu'il faut mettre en place ce type de processus. Du côté des SO et des AC, il se passe de même. J'ai pu voir que les SO et les AC cherchent donc des orientations par rapport à ces processus qui manqueraient au lieu d'essayer de faire les choses au fur et à mesure. Donc, je crois qu'il y avait eu une discussion par rapport à la possibilité de trouver un facilitateur. Khaled au micro. Je ne sais pas vraiment à quoi vous faites référence, Chérine, mais je voulais aborder un autre sujet. Chérine Chalabi au micro. Ce que je voulais dire, c'est que quand la révision SSR2 a été mise en pause, les SO, les présidents des SO et des AC, les SO et les AC ont voulu reprendre les activités. Mais ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de mécanisme pour pouvoir faire en sorte que la révision reprenne. Donc, on se demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse être fait? Et je comprends très bien la difficulté, mais il y avait une suggestion par rapport à la possibilité d'avoir un facilitateur pour pouvoir réunir le groupe et faire en sorte que ce soit possible de reprendre ces activités. Khaled au micro. Oui, je comprends maintenant. Et j'ai participé à cette discussion avec d'autres présidents des SO et des AC. Il y a beaucoup de choses qui ont été introduites dans les statuts qui donnent la responsabilité aux présidents des SO et AC pour agir au sein de la communauté, y compris dans ce cas, le SSR2, la responsabilité au nom de la communauté de mettre en pause ou enlever cette pause de la révision. Et nous sommes confrontés à certaines difficultés en termes de responsabilité. Parce qu'on a parlé de la facilitation, mais alors, À qui rapporterait ce facilitateur? Est-ce que ce serait au président des ESSO et des ESSC? Est-ce qu'on aurait des réunions avec lui? Quel type d'informations devrait-on partager? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Nous apprenons beaucoup de cette situation. Et le point positif, c'est qu'avec la révision SSR2, nous avons énormément appris, nous avons incorporé beaucoup de choses, beaucoup d'orientations par rapport à ces révisions spécifiques, mais nous proposons aussi des éléments nouveaux. Alors je pense que ces discussions entre les ESSO et les AC aboutiront à certaines propositions, dont celle du facilitateur. J'ai Chérine au micro d'IRAM, Chérine Chalabi. C'est un domaine où le conseil d'administration pourrait aider la communauté. Nous devrions donc prendre le dessus là-dessus pour essayer de proposer donc un mécanisme à la communauté, essayer de résoudre, de sortir de cette impasse. Je pense que le conseil d'administration pourrait à ce moment-là faire des propositions à la communauté. Qu'avait au micro, à 7h30 aujourd'hui, on a eu une conversation informelle par rapport à comment mettre à profit ces réactions que l'on a pu voir pendant cette réunion, les commentaires que nous avons reçus par rapport aux révisions. Et donc, nous essayons donc de travailler là-dessus. Jeff Houston au micro. En tant que membre de SSAC2, j'essaierai d'être franc avec vous. Il y avait un délai et je pense que il était très difficile de mettre en place un travail qui repose uniquement sur des bénévoles qui viennent de tout le monde avec des problèmes d'écalage horaire, etc. Donc, quelque part, on s'y attendait vu la portée et les aspirations de ce travail et la capacité des bénévoles à faire ce travail. Alors, l'idée, c'est de pouvoir recommencer le processus. Si la seule chose que l'on veut faire, c'est recommencer le travail dans 12 mois, la chose va se reproduire. Ce n'est pas la façon de faire. Les bénévoles doivent bénéficier d'une certaine aide pour faire leur travail, non seulement pour faciliter la réunion, mais aussi pour attaquer le fond de la révision. Alors, si vous voulez que les résultats ne se reproduisent pas, si vous voulez pas reproduire les mêmes résultats, il faut changer les choses. Si vous voulez que les bénévoles puissent être responsables de revoir les différents projets avec le temps suffisant, il faut changer les choses pour obtenir des résultats différents. Autrement, si vous voulez recommencer les choses avec la même charge de travail, les résultats ne seront pas différents. Je suis très franc, très direct, je m'en excuse, mais je n'aimerais pas que l'on reproduise la même situation à laquelle on a été confronté avant. Ram, Chérine Chalabi. Il y a deux éléments ici. D'un côté, ce que vous venez de dire, quand on commence ce type de révision, il faut bien la structurer. Autrement, le résultat n'est pas à la hauteur. Et autrement, le deuxième élément, si le conseil d'administration veut remplir ses responsabilités fiduciaires et qu'il doit mettre en pause une révision, on n'a pas un mécanisme pour pouvoir remettre en place ce type de révision. Alors, peut-être que l'on met en place trop de révisions dans une même année. Cette année, il y a 9 révisions en cours. Comment pouvons-nous gérer cette charge de travail? Je pense que si nous sommes capables de nous réunir en tant que communauté et nous mettre d'accord sur la façon de faire les révisions, mais les décaler un peu, faire les choses, mais bien les faire. Autrement, si on essaie de faire tout ce qui est dans les statuts, on finit par ne rien faire. Par exemple, les révisions organisationnelles. Il y a beaucoup de parties prenantes qui disent qu'elles ne sont pas efficaces, qu'elles reçoivent des recommandations et qu'elles refusent la plupart de ces recommandations. Donc, il faut prendre une vision, une approche réaliste. Et je suis tout à fait d'accord avec vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir soulevé cette question. Khaled, très brièvement, Khaled au micro. J'aimerais remercier vraiment, Jeff, d'avoir fait ce commentaire parce qu'il faut être franc, il faut être ouvert. On fait partie de la même famille, de la même communauté. Et j'aimerais m'assurer que les OC et le conseil d'administration peuvent vous aider. Donc, dans ce sujet. Et il faut s'assurer également qu'il y ait un budget qui accompagne cela. Nous pouvons utiliser ce que nous avons et vous aider là-dessus. Merci, Rod, Dira Mohan. Voulez-vous donner un aperçu au conseil d'administration par rapport à ce que vous faites en termes de collision de langues? Rod Rasmussen au micro. Oui, et très brièvement, nous avons publié un plan préliminaire et je mets l'accent sur le mot préliminaire parce que nous n'avons pas encore de consensus complet par rapport à ce plan, mais nous voulions le publier pour consultation publique, pour recevoir les commentaires du conseil d'administration et de la communauté. Et donc ce plan envisage de diviser le dossier en plusieurs études pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur en ce moment, essayer de comprendre quelles sont les données que nous pouvons utiliser, analyser et voir ce qui se fait ailleurs en termes d'études. Une grande partie de ce travail essaye de voir, d'analyser les causes, ce que fait que les chaînes puissent entrer en collision. C'est mieux que de voir les collisions elles-mêmes. Et ensuite, nous essayons de voir comment donc comprendre les constats que nous pouvons faire. Je propose une façon de travailler. On propose une façon de travailler dans ce plan. Ensuite, il y a des questions par rapport au coût. Donc, nous avons analysé les études dont je vous parle. Nous envisageons de faire des ateliers publics pour essayer d'être inclusifs. C'est un changement pour l'ESSAC, essayer d'inclure les membres de la communauté. Et cela ajoute une composante transversale à notre travail, le fait de tenir des réunions, etc., a des implications au niveau des coûts. Mais voilà, nous avons un projet donc que nous essayons de chiffrer également pour en évaluer les coûts. Il y a beaucoup d'intervenants dans ce processus. Il y a les gens qui écrivent la partie technique, etc. Donc voilà, nous avons donc inclus tous ces sujets dans notre planification, voir comment ce qu'on voit dans le marché, etc. Alors, c'est une proposition préliminaire, comme je vous ai dit. Ce que l'on veut, c'est obtenir des commentaires, du feedback. Et il y a aussi des questions par rapport à la façon dont cela fonctionne. Comment le mettre en marche? Alors, quel est notre rôle? Quel est le rôle que nous devons jouer dans ce processus versus faire partie du processus? Parce qu'il y a peut-être d'autres ressources que l'on peut utiliser, des consultants extérieurs, Octo, bref, d'autres mécanismes qui puissent gérer tous les éléments du processus. Le ESSAC ne peut pas signer des contrats pour faire quoi que ce soit. Nous n'avons pas d'autorité pour ce faire. Donc tous ces éléments doivent être analysés pour voir comment les mettre en fonctionnement. Voilà, donc notre projet est publié pour consultation publique. Une fois qu'on aura les commentaires, nous allons proposer un plan final qui sera à son tour publié pour consultation publique. Jim, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, très bien. Alors maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. Ram Mohan au micro. Du côté du conseil d'administration, est-ce que Yon, vous voulez diriger la discussion sur la collision de noms? Yon Soninen au micro. Nous essayons de voir Comment commencer ce dialogue? Parce que vous avez soulevé plusieurs points, j'essaye de les analyser et j'essaie de voir à ce que nous avons déjà fait. Car ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, quand nous avons vu votre proposition, c'est qu'on en a parlé brièvement au conseil d'administration. Une partie du conseil d'administration a étudié le projet, a eu des premières réactions. J'en ai parlé brièvement lors de notre séance et donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit à ce moment-là. Mais tout d'abord, j'aimerais dire que d'abord vous remercier pour ce travail, car il est clair que vous avez mis beaucoup de travail, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Je comprends également que ce n'est pas une tâche que vous faites habituellement. Cela représente un défi parce que nous vous avons demandé de faire quelque chose qui n'est pas une tâche habituelle pour vous. Et pourtant, vous avez prouvé que vous étiez capable de le faire et donc je vous en remercie. Ensuite, ce que nous avons, je sais que vous avez beaucoup réfléchi à l'ouverture, etc., tout ce qu'on vous avait demandé. Et donc, c'est un bon travail et je vous félicite, je vous remercie. Tout d'abord, je voulais parler d'un élément qui m'a un peu surpris ou qui m'a impressionné. C'est le chiffre, le coût. D'après les discussions, il semblerait que à partir des hypothèses sur lesquelles vous avez construit votre proposition, vous avez un petit peu chiffré les choses, si j'ai bien compris, hein, mais corrigez-moi si je me trompe. Ce que vous dites, c'est que ce n'est pas un travail que le SAC ferait normalement, c'est-à-dire que vous ne vous portez pas volontaire à le faire. Vous analysez le coût que ce projet représente et ce que représenterait en tant que coût que quelqu'un d'autre fasse ce projet et que on le fasse faire par un tiers. Est-ce que j'ai bien compris? Plus ou moins, dit Rod Rasmussen. Nous avons essayé d'étudier quel serait notre rôle dans ce projet, pour ce qui est de la conception, etc., parce que ce serait fait par les membres de manière bénévole. Nous n'avons pas chiffré chaque seconde que nous allons consacrer au projet, mais nous avons examiné 3 études qui pourraient être utiles. Il pourrait y en avoir davantage, bien sûr. Mais il y a 3 études principales sur lesquelles nous sommes penchés. Et quand on a pensé aux gens qui pourraient participer, on a pensé que ça devait être des experts. Nous avons un tableur où l'on a toutes les hypothèses de coûts. Et bien entendu, on peut partager ces informations avec vous pour des questions, ces informations sensibles. C'est pour ça qu'on ne les a pas publiées de manière générale. Nous avons parlé également de mettre en place une petite équipe du conseil d'administration et du SAC, du comité administratif, pour examiner donc cette analyse et voir si cela peut satisfaire le conseil d'administration. Nous sommes basés sur des hypothèses assez conservatrices pour ne pas nous tromper. Julie Durham et ensuite Rod. Julie Hammer au micro. Je voulais ajouter un élément par rapport au coût. C'est qu'il y a un élément important qui s'ajoute au coût, et c'est la demande du conseil d'administration de faire en sorte que le travail soit inclusif. Quand on a fait cette demande, on a pensé qu'il y a des mécanismes pour se faire, mais ces mécanismes ont un coût associé. John Sonnen et le micro, merci beaucoup. C'est très utile ce que vous venez de nous expliquer. Pour ce qui est de votre proposition, nous devrions peut-être nous réunir avec vous. Ce que vous avez proposé de groupe technique du conseil d'administration et du SAC de se réunir, je suis tout à fait d'accord et je suis partant. Je voulais donc souligner un aspect dont on a parlé informellement, mais que je vais répéter. Les gens ne cessent pas de dire que le SAC n'a jamais fait un projet pareil et que ça impliquerait de travailler différemment à la façon dont le SAC a l'habitude de travailler. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous vous sentez pas à l'aise par rapport à cela? Est-ce que vous pensez que le SAC est le bon endroit pour faire ce travail? Rod Rasmussen, merci de cette question. Elle reflète un petit peu les débats que nous avons au sein de notre organisation et qui ont fait que l'on ne puisse pas aboutir à un consensus complet par rapport à notre projet préliminaire. C'est une question que nous nous posons. Comprendre, examiner, nous avons beaucoup parlé de cela par le passé. Et c'est une question naturelle que nous nous posons et à laquelle nous essayons de réfléchir. La question est de savoir quel est notre rôle. Nous avons un rôle, certes. Mais la question est de savoir quel est le rôle le plus approprié pour nous. Nous avons donc créé ce document au départ en sachant que nous allions être très impliqués dans le projet. Mais peut-être que notre rôle n'est pas si important que ça, et peut-être que notre rôle consisterait à poser les questions et que d'autres intervenants se consacreraient à l'examen de ces questions. Et que ensuite, une fois qu'on aura les informations, nous pourrons analyser ces informations et arriver à des conclusions. Donc, finalement, les recommandations vont venir de nous en tant que comité consultatif. La question est de savoir comment collecter les informations dont nous avons besoin pour arriver à ces conclusions. Maintenant, il faut voir donc comment cela sera fait. Ensuite, il y a un changement qui se opère à l'ICANN. Nous recevons de plus en plus de demandes, de questions, et nous allons devoir évoluer. Alors, quel serait le niveau adéquat de soutien que l'on doit obtenir pour faire tout ce que l'on nous demande? Il y a une question de ressources également. Alors, nous essayons de voir quel serait notre rôle et comment le jouer de la manière la plus efficace. On l'applique pour ce projet, mais cela reflète une discussion de manière générale.
Ram, au micro. Il nous reste 5 minutes sur ce sujet. Donc, je ne veux pas que vous parliez seulement des coûts, parce qu'il y a encore d'autres thématiques qu'on doit aborder. John est au micro. Il y a 2 ou 3 autres sujets dont j'ai déjà parlé. Durant la séance publique, ce que j'entends aujourd'hui, et de toute façon, je sais que nous n'allons pas en terminer avec ce sujet aujourd'hui. Il faut qu'on se rassemble en plus petits groupes et en parler plus en détail. Je pense que c'est la manière de faire les choses. En conclusion, je voudrais dire cela. Quand on parle de la structure, tout d'abord, nous savons que nous avons quelque chose sur lequel nous pouvons nous baser. Ça, c'est une étape importante pour ce projet de collision de noms. Nous avons une proposition de plan et nous pouvons maintenant nous diriger dans la bonne direction. Ce qui est bon d'entendre, c'est de savoir que vous avez déjà eu une conversation en interne. sur le rôle de l'ESSAC en lui-même. Et vous avez apparemment obtenu une conclusion au niveau interne. Et bien sûr, nous pouvons continuer à dialoguer avec le Conseil. Mais en allant dans l'avenir, il serait bon qu'un petit groupe du ESSAC, un petit groupe du Conseil d'administration se rassemble pour en discuter. Ram, au micro, oui, j'entends dire des deux côtés que la proposition est la même. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est un consensus et donc nous allons continuer dans ce sens. Il y a un autre point qui voulait être soulevé durant cette réunion, donc nous allons passer la parole à Patrick. Patrick Fahlström. Si j'observe de l'extérieur, quand il s'agit du SSR2 et d'autres projets similaires, je pense que nous voyons maintenant une évolution des opérations de l'ICANN. Avant, il y avait des vues, des opinions divergentes dans la communauté et ICANN avait un rôle très explicite quand il s'agissait du consensus et de l'interprétation de des opinions de la communauté. Et les comités devaient donc lire les avis qui étaient donnés et devaient faire des contributions en retour. Dans la version moderne de l'ICANN, que je soutiens complètement, au fait, et cela fait longtemps que je le dis, donc cette nouvelle version de l'ICANN nous démontre qu'il y a beaucoup plus de pression sur l'ICANN de la communauté. Il faut qu'il y ait un consensus. Et il faut toujours en arriver à une solution. Donc, de ce côté-là, la communauté essaye de faire beaucoup de choses qu'elle ne faisait pas avant. Donc, il n'y a pas de conception de prix ou de chiffrage qui est pris en compte. Donc, le Conseil voudrait travailler, participer avec le ESSAC beaucoup plus. Donc, il faudrait qu'il y ait plus de communication pour pouvoir mieux participer. Donc, pour la communauté, il faudrait qu'on en arrive à un certain consensus. De l'autre côté, comme je l'ai déjà dit, nous, à l'ESSAC, nous ne sommes pas habitués à faire les choses de cette manière. Nous analysons toujours les choses que les autres ont fait. Et maintenant, nous sommes en charge du projet. Nous sommes responsables du projet. Donc, nous voyons une certaine convergence maintenant. Nous ne savons pas vraiment faire les choses de cette manière-là. Donc, je soutiens exactement ce qu'on a parlé et j'aimerais qu'on forme ces petits groupes pour aller de l'avant. Nous avons vu avec le projet SSR2 que certains des volontaires ne peuvent pas tout faire. Donc, la question, est-ce qu'on peut continuer à travailler avec la communauté si l'on le fait? Quel genre de soutien? De quel soutien avons-nous besoin? Il faudrait peut-être qu'on mette en place des plans de projet. Que vont faire les volontaires, etc., etc. Donc, nous devons discuter de ces coûts et de cette organisation. Ram au micro. Yone, vous voulez répondre à Patrick? Yone au micro. Je voudrais répondre à Patrick rapidement. C'est une des choses que nous avons étudiées au Conseil. Quelle est donc la responsabilité sur les projets? Nous avons des questions à ce sujet aussi. Il serait peut-être mieux que l'organisation gère le projet et pas les bénévoles. Ou du moins, il pourrait qu'il y ait un mélange des deux. Nous devons continuer à en parler. On devrait vraiment savoir quel est le mécanisme approprié à utiliser. Ram au micro. Merci. Johnny, Charine, vous voulez prendre la parole? Charine, Chalabi au micro. Je comprends qu'il y ait des questions de processus et de coûts, mais ça ne doit pas nous arrêter. On doit pouvoir quand même parler de la substance, du contenu. Quand il s'agit de la consistance, nous savons qu'il y a un problème sous-jacent et le Conseil doit avoir un avis pour pouvoir arriver à une conclusion. Nous n'allons pas aller vers la SAC si nous n'avons pas besoin de votre avis pour résoudre ce problème. C'était un problème durant la dernière série de GTLD. S'il y a une autre série ultérieure, il va falloir qu'on règle le problème pour ne pas revenir vers la même situation où il y a des gens qui font des requêtes de délégation de certaines chaînes et nous n'aurons pas en place une politique stricte. Ça fait des années qu'on utilise même le même processus en disant non, on ne va pas déléguer telle ou telle chaîne. Donc, on doit fournir une certaine clarté sur cette question. Il y a donc un besoin pour que les choses soient faites. Trouvons une façon de le faire et ne laissons pas le coup nous arrêter ou nous faire obstacle. Rod Rasmussen, vous avez compris, Charine, nous préférions parler des choses ludiques, les choses intéressantes pour nous, les choses de substance pour nous. Et nous avons eu de très bonnes conversations là-dessus d'ailleurs. On nous a dit, qu'est-ce qui pourrait nous aider à régler cette question? Nous en avons beaucoup parlé et je suis donc d'accord avec vous. Ham au micro. Jay, si vous voulez parler, il vous reste 10 secondes parce que nous allons dépasser le temps alloué. Jay, nous devons faire très attention car nous avions une certaine dépendance durant la deuxième série. Donc, il faut faire attention que ça ne se reproduise pas dans l'avenir. Si nous revenons vers cette dépendance, nous allons le regretter dans l'avenir. Donc, je recommande que nous observions les clauses pour la deuxième série afin d'éviter les mauvais résultats. Ram, au micro, je vais vous passer la parole, Rod, et ensuite à Charine pour que l'on puisse clore la séance. Rod, au micro, voilà, on a déjà dépassé le temps alloué. Donc, je voudrais remercier le conseil d'administration de leur présence avec nous aujourd'hui. Merci aux membres ERSA qui ont aussi participé. Chérine Chalabi, oui, je voudrais vous remercier. Ce dialogue est très important car la mission, c'est la stabilité et la sécurité. Donc, ça ne pourrait pas être une réunion plus importante. C'est vraiment le cœur de notre mission. Donc, merci encore pour la conversation. Nouvel intervenant, il y a une paire de lunettes sur la table. Est-ce que quelqu'un a perdu des lunettes? D'accord, merci. Ram, cette séance est maintenant ajournée.